Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. La semaine dernière, nous avons parlé de Abdellatif Labi, qui avait fait paraître son dernier volume au Castor Astral, collection poésie, un dernier pour la route. Je voudrais cette semaine encore revenir sur ce puissant poète Abdellatif Labi. Il me semble qu'effectivement, cela mérite un complément d'émission. Nous en avons parlé une demi-heure à peu près, peut-être un peu moins, je ne me souviens pas, la semaine dernière, mais il faut compléter. Donc je vais revenir sur ce poète majeur d'expression française, donc de la poésie francophone, Abdellatif Labi. Alors, Abdellatif Labi, je vais le rappeler, pour ceux qui éventuellement n'auraient pas écouté l'émission, il est né en 1942 à Fès, donc au Maroc. Et c'est un poète qui est un poète donc qui a voulu porter sa parole très haut, très fort, et qui n'a pas lésiné avec les dangers de la liberté. Et Abdellatif Labi, ce combat qu'il a mené, qu'il a toujours mené pour la liberté, c'est en cela d'ailleurs qu'il y a aussi des poètes comme ça, qui sont des poètes exemplaires au sens le plus exact du terme, c'est-à-dire doivent être un exemple pour les autres poètes. Donc ce combat pour la liberté lui a valu d'être emprisonné. Il a eu une peine de prison, il a été condamné à une peine de prison de 10 ans au Maroc. Il en a effectué 8 ans emprisonné pour avoir écrit des poèmes. Abdellatif Labi, qui avait créé au Maroc dans les années 70, sous le règne de Hassan II, la revue Souffle. Voilà. Et c'est pour cela qu'il a été emprisonné, qu'il est resté quand même 8 ans, de façon terrible, dans les geôles marocaines. Et puis, il a été libéré et depuis 1985, il vit dans la région parisienne, donc il vit en France. Et maintenant, il vit un peu entre le Maroc et la France. Alors la poésie, il a une œuvre qui est une œuvre plurielle. Les éditions La Différence ont publié il y a déjà quelques années, une dizaine ou une quinzaine d'années déjà, quasiment son œuvre complète. Et on voit là à quel point cette œuvre est éminemment abondante. Et cette œuvre, qui est une œuvre plurielle, puisqu'il n'a pas écrit que de la poésie, mais la poésie occupe la place prépondérante. Vraiment, c'est avant tout un poète. Alors aujourd'hui, Abdellatif, il a la chance que ses livres sont traduits dans un monde grandissant de langues. Il a reçu le prix Goncourt de la poésie et le Grand Prix de la francophonie, qui est décerné par l'Académie française, et le prix Mahmoud Darwish pour la liberté et la culture. Alors je vais revenir d'abord sur La Terre est une orange amère, paru au Castor Astral, collection donc poésie. C'est un livre qui vous coûtera 16 euros, comme tous les livres du Castor Astral dans cette collection. Et je vais donc dans La Terre est une orange amère, qui dit bien son nom. Il parle de l'Ukraine. La semaine dernière, j'ai lu ses poèmes sur l'Ukraine. Mais je vais là vous lire d'abord quel est son rapport à la poésie. La poésie est moi. Est-ce moi qui ne sais pas m'arrêter ou elle qui ne veut pas me lâcher? Pourtant, j'ai rusé, comploté, fait le mort, feint la folie, cru vraiment m'être perdu, me suis éloigné de moi-même, autant que des autres, me suis fait longtemps enfermer, me suis écorché la peau, la mémoire, jusqu'au sang. Rien n'y fit. De mes entourloupes, elle se riait la bougresse, comme si elle avait pour elle l'innocence immaculée. De la culture d'où je viens, l'idée du péché originel m'ayant été épargnée, comment pouvais-je savoir que j'allais la contracter en consacrant ma vie à ce que je croyais être le plus noble des arts? Ah, poésie! Voilà. On retrouve là tout le ton de Agalative Labi. Donc, un ton qui paraît prime sautier, comme ça, de premier abord. Une poésie d'abord d'une extraordinaire, et je dirais même d'une exceptionnelle simplicité. Donc immédiatement abordable, abordable par tout le monde, compréhensible immédiatement. C'est très difficile d'être simple. Et c'est vraiment l'apanage vraiment des esprits profondément clairs. Ils savent vraiment ce qu'ils ont à dire. Et il n'y a pas là de, comment dirais-je, il n'y a aucun hermétisme dans cette poésie, la poésie et moi. Il n'y a pas d'hermétisme, mais il y a beaucoup de choses. Par exemple, il parle du péché originel, disons de la culture d'où je viens, l'idée du péché originel m'ayant été épargnée. Voilà. Et effectivement, le péché originel, donc, qui est dans la notion de la culture judéo-chrétienne, lui vient d'une culture arabo-musulmane, donc. Pas du tout, où il n'y a pas cette notion. Et il y a d'abord une grande lucidité, et puis toujours cette espèce de dérision de lui, qui est l'apanage vraiment des grands esprits, de pouvoir avoir ce recul sur la vie, sur les choses, et surtout ce recul sur lui-même, un recul sur lui-même. C'est assez rare chez des poètes. Les poètes, souvent, ne sont pas au recul, mais sont, je dirais, aux premières loges d'eux-mêmes. Et ils ressentent la frustration, les blessures narcissiques très, très fortement. Lui, non, il est en dehors de ça. Abdelatif Labi, c'est tout à fait le contraire. Alors, il s'est exercé au silence, voilà, c'est ce qu'il dit. Je m'exerce au silence. Cela fait longtemps que je m'exerce au silence en public et tout autant en privé. Je cède la parole à ceux qui, par son usage immodéré, ont l'illusion d'exister, à ceux qui guettent la moindre hésitation dans le débit de l'interlocuteur pour lui couper le sifflet. Objectif que je me suis fixé. Ne parler que quand on me le demande. Voilà. Dans l'exercice du silence. Et c'est vrai que l'on aimerait que certaines personnes aient la pratique de cet exercice du silence. Et puis un poème que j'aime beaucoup, j'ai lu souvent ce texte. Parce que, bon, d'abord, c'est un texte qui est gai. Écoutez ça. Rions. Oui, rions. Peu importe le sujet, le prétexte, la personne, le peuple, la religion, le sexe, la couleur, les tares physiques et morales. Rions. De nous, de vous, d'eux, d'elles, des animaux, sauvages et domestiques, des plantes comestibles ou vénéneuses, de la mer, des fleuves, des montagnes, du soleil et de la lune, de la voûte céleste des étoiles filantes, rions de nos nez, nos sourcils, notre démarche, nos pieds, nos bras, s'agitant ou ballant, notre voix, nos habits, nos bruits de succion, nos flatulences et borborygmes, rions de nos rires indécents, nos cris immodérés, notre verbe bourré de tics, nos bonnes intentions, nos pensées impures, nos actes apprêtés, nos livres de chevet, nos idoles adulées, puis abhorrées. Rions de nos larmes, nos lamentations, nos bourreaux en fin d'exercice, nos rêves qui ne survivent pas à la nuit, notre chemin qui se perd en chemin, nos tunnels sans la fameuse lumière au bout. Rions du fric et ses équivalents, le flouze, le grisby, le blé, le pognon, le pèse, les pépettes, la thune, le nerf de la guerre. La monnaie sonnante et trébuchante, le dollar, le dollar, le dollar. Rions jusqu'aux larmes, les franches, les chaudes, les pleines, les longues, les ultra-salées, les transparentes, les irrésistibles, les justes. Il y a vraiment de quoi rire, de quoi pleurer. Abdel Latif Labi. Donc, c'était dans La terre est une orange amère. Je vais lire maintenant des extraits de, dans ce recueil du passage Méditations agitées. Méditations agitées. La douleur a entièrement colonisé le corps. Toute résistance est vaine. Poète, ne lâche pas ta plume tant que l'esprit est sauf. Le mal physique intrinsèque, lui au moins, n'est pas infligé par autrui. Quel est ce grigou qui compte une durée de vie en saison, en mois, en jour? Ne pense plus à toi. Sors de ton corps, de ta fenêtre. Guette l'inconnu, la découverte qui va ébranler tes croyances, tes idées acquises. Ouvre la fenêtre et saute en toute confiance dans une nouvelle dimension de l'espace et du temps. Tu n'auras plus à regarder derrière toi, ni devant toi d'ailleurs. Tu t'élèveras comme une navette conçue dans un lointain futur pour aller rejoindre ton étoile d'origine. Si je n'avais pas connu la prison, je n'aurais vécu de l'amour que ce qu'en vivent les personnages de romans. Aucun fleuve n'est tranquille, a fortiori celui de la vie, le plus impétueux de tous, où l'on est poussé de façon perfide, habillé ou non, comme dans une séance de bizutage. Le film de ma vie, il m'est arrivé de le voir défiler 100 fois dans ma tête, devant mes yeux, à la vitesse de l'éclair. Pourtant, chaque fois j'ai survécu. Ciel gris, un rayon de soleil perce vaillamment les nuages. Quelqu'un est-il en train de penser à moi? La pluie, je l'écoute. Elle raconte à la terre sa conception, ses métamorphoses, ses voyages, les versions fantaisistes de son histoire. Les bourgeons du magnolia, que j'ai souvent évoqués dans mes écrits, commencent à percer. La fin du monde n'est donc pas pour demain. Dans la mémoire de l'enfance, les chevaux galopent. L'odeur du baroud les fait hennir. Leurs selles sont brodées or, argent et fil de soie. Dans les yeux de l'enfant, émerveillement et fierté. Il sait que de l'artisan, son père, les chevaux tiennent une part de leur farouche beauté. Je ne les ai pas vus, ces deux tourterelles. Pourtant, elles étaient là, en train de s'entrebequeter sous mon nez. Je veux dire, au-dessus de la branche la plus proche de ma fenêtre. Paf ! Elles viennent de s'envoler, pour échapper à quelques gloses déplaisantes du voyeur. La cabane de la poésie se construit, elle aussi, avec trois petits bouts de bois. Un bois un peu spécial, quand même, qui parle, crie, pleure, chante, rit, saigne, rêve, s'automutile et parfois tue. Nous n'arrêtons pas de nous entretuer entre voisins, frères et cousins, nations ou tribus, adorateurs de la poule aux œufs d'or ou du zèbre violoniste, marchands du temple, voleurs à la tire, soldats ou moines, habits de bêtes ou des robots dernier cri. La lie de l'humanité est en train de remplir à ras-bord nos vers. Mes vertiges physiques et métaphysiques vont du singulier à l'universel. Le plus étourdissant est celui qui a trait au temps, cette abstraction qui dépasse mon entendement. Les fables. On ne voit presque plus qu'elles, du moins dans les sociétés dites avancées. À croire qu'elles sont devenues les hommes d'aujourd'hui. Le philosophe cité à profusion et qui a dit « Dieu est mort » a commis sa plus grosse bourde. Faire disparaître le monde des loups très très civilisés, des injustices, de la violence fondatrice, il suffit de fermer les yeux et de ne suivre du film d'horreur que la cacophonie indéchiffrable de la bande son. La sérénité n'y accède vraiment que les espèces non parlantes. Par ces temps de pandémie, on n'arrête pas de se laver les mains, comme si un nouveau Messie allait être mis en croix et que l'on s'estimait quitte de son sang. Que de médecins se pressent au chevet de cette planète moribonde. Que de retardataires ignorant ce que voulait dire la politesse des rois. Avis aux tyrans. Je n'ai pas dit mon dernier mot, Abdelatif. La Abi, non, c'est extrait de La Terre est une amère orange. Alors, si on reprend ce texte, hein, on voit que, bon, il y a toujours cet humour, par exemple, quand il parle des femmes, hein, sur cette mode du féminisme en tout craint, les femmes, on ne voit presque plus qu'elles, du moins dans les sociétés dites avancées, à croire qu'elles sont devenues les hommes d'aujourd'hui. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vraiment, il y a à la fois dans la poésie, même dans la construction du vers, hein, telles qu'elles sont dans la page, et bien entendu, là, je le dis, mais on ne peut pas voir le cheminement des mots dans le blanc de la page. Bon, c'est vraiment un poème à part entière, et en même temps, quelle force dans cette ironie qui dit, oui, les femmes, c'est quoi actuellement? eh bien, ce sont les hommes d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles prennent, elles prennent la, toute la place et bon, on va remplacer la domination, une domination d'un sexe par la domination d'un autre sexe. Et puis quand il parle de Nietzsche, par exemple, le philosophe cité à profusion et qui a dit Dieu est mort, donc ça c'est Nietzsche, hein, a commis sa plus grosse bourdement. Voilà. C'est d'une simplicité totale, mais ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bon, c'est-à-dire, ça peut être, oui, c'est quand même une grosse bourde. Voilà. Et puis, il parle de faire disparaître le monde des loups très très civilisés. Bon, les loups très très civilisés, ben, c'est quoi ? Ce sont quand même ceux qui se sont arrogés le pouvoir de mener le monde, hein, de nous, de d'être nos dirigeants politiques, d'être aussi nos dirigeants économiques, etc. Et puis de faire en sorte aussi de s'accaparer des richesses. Abdelatif Labi, alors vous voyez, c'est une poésie qui est bon, une poésie, il faut le dire, une poésie qui est une poésie d'idées, hein, une poésie il y a beaucoup de révolte chez Labi. Mais une révolte tout en finesse, avec l'autodérision, avec l'humour, toujours, et en présentant vraiment les choses sur leur aspect bon, le plus stupide en définitive dans la vanité de l'homme. Voilà. Je me souviens de la mer. Alors, il a écrit ce texte en pensant au poète Mohamed, l'écrivain Mohamed Dib. Je me souviens de la mer quand nous étions voisins, durant l'une de mes multiples vies. Je me souviens de ses crises et chuchotements, ses peintures éphémères, ses jeux de cache-cache avec la lumière, de sa course ininterrompue avec l'horizon, ses débats sans vergogne avec le ciel, ses odeurs de poissons vivants, ses compositions musicales post-modernes. Je me souviens de son réveil, sa sieste et son sommeil, et de l'embrun salé dont elle enduisait mes yeux mouillés dès qu'il l'embrassait du regard. Voilà, donc, il écrit ça pour Mohamed Dib, grand écrivain, donc. Amour-poésie. De la poésie ou de l'amour, lequel m'a sauvé le plus? De quoi d'ailleurs faudra-t-il préciser? De la mort lente ou brutale du reniement, de la désaffection de la conscience, de la paralysie de la peur, des pulsions de la violence, de la justification, de ce qui ne peut être justifié, des béquilles de la religion, des œillères des idéologies, des miasmes du nationalisme, du poison du mépris et de la haine, de la martyrologie, de la suffisance, de l'enfermement à l'intérieur de l'enfermement, de la vulgarité, de l'indifférence, de l'appât du gain, de laisser la tête, de baisser la tête devant les puissants pour laisser le passage, de baiser la main dont je ne sais qu'elle est couverte de sang et de bave. Voilà. Donc tout est dit là aussi, hein. Le reniement, la désaffection de la conscience, etc. Voilà. Et c'est en définitive dans cette espèce de petit inventaire à la Prévert, hein, de d'Abladetiv Labi, il y a, ce n'est même pas une caricature tellement c'est une vérité que l'on peut voir tous les jours, hein, dans comment est mené le monde, hein, le monde il est mené par ça, par la mort lente ou brutale, par le reniement, par la désaffection de la conscience, par la paralysie de la peur, etc., par l'enfermement, les œillères des idéologies, nous sommes en plein, c'est le quotidien, ça, les œillères des idéologies. Sur quel désert ma page a-t-elle échoué ? Ce matin, je vois sur ma page que le ciel est bleu, un bleu de fez ou de grenade. Je vois une longue rangée de bigaradiers en fleurs, une main tatouée au henné, m'indiquant le chemin de ma maison natale, un âne, s'abreuvant à la fontaine publique de la place des Menuisiers, un chapelet de beignets accroché à l'index d'une petite bonne qui court dans une ruelle, une salle de classe vide dont je sais qu'elle se trouve dans mon école primaire. Je vois tant de choses, mais je n'entends rien. Est-ce un mirage ? Sur quel désert ma page a-t-elle échoué ? Voilà. Très beau poème aussi, très simple, quelques mots qui font un vers, hein, chaque fois ce matin, puis il va la ligne, je vois sur ma page, il va la ligne, que le ciel est bleu, voilà. Un bleu de fez ou de grenade, hein. Que c'est simple, et en même temps que c'est fort, parce que on est immédiatement plongé dans l'idée, dans la pensée du poète, hein. Et c'est ça peut-être aussi ce qui fait la poésie et les poètes, c'est cette capacité que l'on a par l'évocation, par de pouvoir voir en pensée des choses pour lesquelles qui ont occupé bien sûr toute notre psyché et qui sont restituées par la mémoire, la pensée. Voilà. Alors que on est loin, mais que l'on peut coucher sur une page dans le poème, et donc ainsi naît un univers, notre univers qui nous appartient, et qui est le nôtre, et qui nous réchauffe, et dans lequel on se reconnaît. C'est notre identité, et notre identité, elle est là, dans le poème qui a été écrit. Et je vais penser maintenant, bien entendu, au dernier recueil, absolument dernier recueil, d'Abdelsevlabi, donc un dernier pour la route. Alors j'en ai parlé la semaine dernière en disant que le dernier pour la route, même si Abdelsevlabi, qui est né en 42, donc... Et qui a, voyons, 77, 85, 6 ans, on espère, et on espère très fort que, bien entendu, il va nous offrir la parution d'autres recueils. Alors, déjà, celui-ci est un très beau recueil, hein, il est épais, hein. Non, au castor astral, toujours. Hein. Il y a un recueil qui a plus de 126 pages. Hein. Alors, la semaine dernière, j'avais lu le 21e siècle, où il disait que, il n'aime pas trop, il pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire pour le moment au 21e siècle, mais que peut-être le 21e, il n'y avait pas que des choses mirobolantes. Hein. 21e siècle, ce sont quand même des guerres terribles, c'est des bombes atomiques, hein, c'est des génocides, que sais-je, des choses quand même assez terribles. Hein. Alors, note surréaliste d'Abdelatif Larbi. Des textes tombent sur moi. C'est la seule pluie à laquelle j'expose volontiers mon visage et pour lequel je mouille sans hésiter ma chemise ou mon pantalon. D'où viennent-ils ces textes et pourquoi choisissent-ils ma caboche pour tambouriner jusqu'à trouver la mélodie de leur chanson? Là, je commence à comprendre l'image surréaliste du parapluie ouvert sur une table de dissection. Voilà. Alors, c'est assez étonnant comme texte, c'est un réaliste, hein, le parapluie ouvert sur une table de dissection. C'est l'image d'Épinal que l'on a du surréalisme, hein, c'est-à-dire, comment on pourrait, dans une table de dissection, avoir l'idée d'ouvrir un parapluie. Hein. Donc les surréalistes essayaient toujours d'avoir des images comme ça, très provocatrices, de choses qui sont là, mais qui normalement jamais devraient être ensemble, jamais se rencontrer, mais qui se rencontrent. C'est ça l'effet du surréalisme. Et lui, pour parler de ça, il dit, les textes, ils arrivent sur moi, un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il ne va pas les chercher. Elles arrivent dans sa tête, hein. Il parle de sa caboche, hein. Comme si elle tombait de la pluie et qu'il récoltait ça. Voilà. Donc ça veut dire que il y a quelque chose de naturel chez lui à écrire ses poèmes, puisque ses poèmes lui sont un peu dictés par ce qui lui tombe dessus, et que bon, il lui suffit en définitive de décrire ce qu'il a ressenti. À l'école des derviches tourneurs, j'observe humblement ce que l'écriture peut transmettre. La danse de l'âme, la sacralité du corps, l'architecture de l'infini. À leur école, je sais ce que sont l'absence éveillée, le cœur qui palpite au creux de la main, le souffle qui, en s'exhalant, dessine dans l'atmosphère la silhouette des visions. À leur école, je ne pense plus, je me blottis dans le giron du mystère. Abdelatif Lahabi. On va aller un petit peu plus loin. On va parler de djinn. Un djinn s'amuse dans mon corps avec son trident. Il m'envoie des décharges courtes mais bien senties, tantôt dans le crâne, le cœur, le pied gauche, le genou droit, une des mains, un des yeux, tantôt dans l'entièreté du haut ou du bas de ma carcasse. Il en fait tellement, avec une régularité de métronome, qu'il m'arrive de m'en amuser et de guetter avec malice la moindre de ses défaillances. Je savais que j'étais déjà habité, mais il me faut admettre qu'en moi, il y a encore de la place. Alors, Najwa, alors je ne sais pas si je le prononce comme il faut, ça s'écrit N-A-C-H-W-A-H. Alors, en arabe, ça veut dire griserie, euphorie, extase. Et puis il va parler d'un poète là qui s'appelle Abu Nuwas. C'est un poète du 8e et 19e siècle qui est né en Iran et qui est mort à Bagdad et qui est célèbre pour sa poésie bachique et érotique. Hein. Bachique et érotique pour de la poésie arabe. Hein. Comme quoi, hein. Alors quel poète profane ou mystique n'a pas célébré le vin? Avec son masculin cambre, et son féminin, Kamra. La langue arabe a rendu androgyne la fille du raisin. Mais que sont les échansons devenus? Reviendra-t-il le temps des commensaux? Ah, verse-moi du vin, et dis tout haut qu'il s'agit bien là de vin. Foin des censures, des « tu penses comme moi ou je te tue ». Des livres que l'on ne touche que si l'on est propre, comme un sous-l'œuf. Des, entre guillemets, « identité meurtrière ». Merci Amin Malouf. Des machines à fabriquer la haine, à brasser le vent des idées creuses et venimeuse. Ah, foin. Je tombe de fatigue. Allons, chère échanson, verse-moi, verse-nous du vin. Kamra, cette fille androgyne du raisin. Voilà. Donc il y a une apologie, hein. D'abord, il y a bien entendu une dénonciation de tous ces faux penseurs et tous ces censeurs et tous ces maîtres à penser qui disent comment il faut penser. Tu dois penser comme je te dis, sinon je te tue. Bon, il y a là une diatribe contre ces gens-là. Mais il y a après, oui, effectivement, l'apologie du vin. Alors il y a dans la poésie arabe aussi, une grande tradition de cette poésie bachique et érotique, en particulier en Iran d'ailleurs. J'essaie d'écrire un poème sur Gaza. Oui, alors ça c'est dans une partie qui s'appelle « J'essaie d'écrire un poème sur Gaza ». J'essaie d'écrire un poème sur Gaza, oui. J'essaie depuis des semaines, des mois, et rien ne vient. Pourtant, je suis incapable de penser à autre chose. Les mots de Gaza se refusent à moi. Faudrait-il pour les mériter que je perde un, deux de mes enfants ? Que je perde moi-même un œil, une jambe, un rein, ou que l'on m'arrache la langue ? Ah, alors, que me reste-t-il à dire ? Si peu, je le sais, mais voilà, je n'arrive pas à renoncer à ce peu. J'en ai besoin pour ne pas me laisser éclabousser, engloutir par la honte, l'impuissance, la lâcheté du spectateur, ou pire, le crime d'indifférence. Malhabile, j'écris comme de la main gauche. Ma voix est celle d'un robot qui va partir à la casse. Je n'écoute même pas la moitié des propos qui parviennent à mes oreilles. Les douleurs que je ressens sont fades. Je ne sais plus quoi faire de mes yeux. Et je marche comme un crabe. Le cri, mon fameux cri, me reste en travers de la gorge. Ni vivant, ni mort. Moi aussi. Alors, quand il dit « ni vivant, ni mort », dans ce poème, il fait référence au titre du recueil du poète syrien Faraj Behrakdar, et qu'il a traduit, il a traduit aussi, mais j'en ai longuement parlé ici, il a traduit une anthologie de la poésie gazaoui, qu'il a traduit et qu'il a publié, mais il y a longtemps, c'était aux éditions Al Dante, en 1998, dont le poète syrien Faraj Behrakdar. Leur mort ne ressemble pas à la mienne, à la vôtre, à force d'être concrète. Elle est devenue totalement abstraite. Leurs morts ne sont plus que des chiffres qu'on égrène distraitement du bout des lèvres. Dans le lexique de leurs bourreaux, on ne dit pas qu'ils sont tués, ils sont éliminés. Poème terrible, hein, où il dit, à force en parlant de la mort, il dit, à force d'être concrète, elle est devenue totalement abstraite. Ça me fait penser à, je ne sais plus qui c'est qui avait dit, un mort, on peut en avoir la vision, 10 morts, effectivement, c'est terrible et ça crée une grande émotion. Mais 1000 morts, c'est une statistique. Voilà. C'est exactement ça qu'il veut dire. Et puis, le lexique, bien sûr, le lexique stratégique des armées et de ceux qui élimine. Le jour se lève sur Gaza, les premiers rayons du soleil caressent les décombres, les arbres calcinés, les tentes de fortune, les tombes anonymes, les vaguelettes qui continuent à bruire, à donner l'illusion d'une mer, de ses voiles, de son large et ses horizons. Les bombardiers dorment encore, les muezzines d'eux-mêmes. Voilà, bon, image de Gaza. Les poétesses et les poètes meurent aussi. Les yeux ouverts ou fermés, tenant toujours, levé, un crayon. La joue posée délicatement sur la page, les jambes broyées, séparées de leur tronc. Il est vain d'essayer de deviner les derniers mots ou demi-mots qu'ils ont gribouillés sur la page. Là, dans la position que nous avons décrite, ils sont un livre ouvert aux pages arrachées. Je n'ai jamais connu la faim, la vraie. C'est le vécu lors de famines qui durent et durent, sans parler de la soif, la vraie, qui l'accompagne. Et cela sous un soleil de plomb, baignant dans un air irrespirable avec un oiseau d'acier qui tourne au-dessus de la tête pendant son temps pour choisir sa proie et ne s'éloignant qu'une fois rassasié. Mais ta vie, que de la vie, vraie ou fausse, je n'ai pas connu grand-chose. Loin dans l'histoire, Gaza, une oasis, raconte-t-on, luxuriante, ouverte sur le monde civilisé, célébrée par les voyageurs à la vue de ses fruits médusés, donnant du fil à retordre à l'envahisseur, fut-il le grand Alexandre. Depuis des millénaires, des Gazaouis avaient fait fleurir le désert bien avant ceux qui... À Gaza, on ne dit plus bonjour, bonne nuit. On ne demande pas quel temps fait-il. Comment vont les enfants et la santé, le travail? La fierté empêche de se saluer en disant comme les Chinois jadis, « Avez-vous mangé ?» À Gaza, on ne se parle pas quand on se croise. On se regarde du coin de l'œil, celui encore valide, et on pousse un soupir en guise de salut. À Gaza, des oiseaux ont été chassés du ciel des volières, comme en Afghanistan, dès le premier règne des talibans. La radio ne diffuse plus de musique. Les voix n'émettent plus que des litanies ou alors des cris. On dirait étrangers à la douleur et qui retentissent, au paradoxe, comme des attestations de vie. Le bombardier, le drone, le char dernier cri sont capables de déceler une aiguille dans une meule de foin. Mais au lieu d'extraire chirurgicalement l'aiguille, y fait exploser littéralement la meule. Lama. Sadisme aveugle de l'intelligence artificielle. Alors, lama, ça veut dire pourquoi en hébreu, hein. Ils font exploser littéralement la meule, donc il faut traduire par pourquoi. Pourquoi. Voilà. Alors, bon, ça continue sur Gaza. On ne peut que, bien entendu, qu'être ébranlé par ce qui se passe là, mais n'a-t-on pas été ébranlé avec une infinie violence aussi par ce qui s'est passé le 7 octobre 2023? Et sans le 7 octobre 2023, il n'y aurait jamais eu de Gaza actuellement. Il n'y aurait jamais eu ce qui s'est passé à Gaza. Voilà. Donc, la folie, dans un tel conflit, la folie, elle n'est pas toujours univoque. Je vais aborder maintenant Saoudade, la Saoudade, la prison de l'univers. De l'infini, je sens les barreaux, entre ces quatre murs, j'étouffe. Comment s'évader de la prison de l'univers? Je ne sais comment dire. De quel corps puis-je encore faire usage? Je ne sens ni mes mains, ni mes jambes. Mes yeux ont sombré dans l'océan de l'invisible. Ne suis-je qu'un esprit, une âme, un souffle? Je ne sais comment dire. Abdelatif Labi. Un dernier pour la route. Tout converge vers le chaos. Tout converge vers le chaos. Redevenu cannibale, les hordes se bousculent au bord de l'abîme. Après sa brève éclipse, le pouvoir viril est de retour. Cette fois-ci, les femmes seront d'abord abattues avant d'être violées. Nous ne maîtrisons plus rien. Qui que nous soyons, nous ne maîtrisons plus rien. Où sont passés l'axe de la raison, la musique secrète de la langue, les éblouissements presque aveuglants de l'amour, les images parlantes des prophéties, la foi paisible en l'inespéré, le bonheur suffocant de se sentir vivant? Ne persistent que les questions, celles auxquelles on a plus ou moins répondu, et plus nombreuses encore, celles restées sans réponse. Abdelatif Labi. Plus une once de réalité, plus une once de réalité. Le cœur bat-il encore pour quelqu'un, pour quelque chose? Il n'y a de Dieu que l'intelligence hors sol, hors espace, hors temps, et ses instruments de cruauté augmentés, conçus par des tarés élevés au rang de génie. Alors là, on retrouve le combattant, hein, Abdelatif Labi. Hein. Bon, il dit que c'est le DRDDR, son truc, mais non. On le sent encore plein de force, plein de vigueur, plein de révolte et plein d'envie de dire cette révolte, hein, de pouvoir se défausser dans cette révolte et de dire vraiment ce qu'il a envie de dire au monde. Dépossédés. Nous sommes déjà dépossédés de ce qui nous tenait lieu de bouée de sauvetage, canne, béquille, garde-fou. Nous sommes dépossédés des mots de la prière, de la véracité du cri, peut-être même de l'instinct de survie. Plus rien ne s'oppose maintenant à notre extinction. Terrible, hein ? Et puis, peut-être les derniers. Alors, les derniers. Mais les dernières volontés. Dernière volonté. Je vous ai accompagné ma vie durant en poème. Accompagnez-moi, s'il vous plaît, le moment venu en musique, celle que j'aime, cherchez bien. Recouvrez-moi avec une de mes toiles que j'ai peinte, non avec des pinceaux, mais un couteau plat et mes griffes. Puis vite, vite, allez manger, boire, rire normalement. En vous souvenant, si possible, de mes bons mots et certaines de mes facéties. Allez, va, ne vous en faites pas. Si vous ressentez quand même une sorte de jubilation à l'idée que vous, vous êtes toujours vivant. Terrible, ce poème. Terrible, terrible. Parce que, bon, ses dernières volontés, il dit ce qu'il en est. Et c'est souvent très vrai. Hein. Dans les villages, il y avait cette... cette coutume qui existe toujours, la pratiquer dans ma famille. Après l'enterrement, après bon, les grandes émotions, etc., ben, on convie donc les gens à se rassasier, à manger, à boire. Et là, on va parler du mort, mais avec ce qu'il avait de meilleur, bien sûr, de ce que l'on peut dire pour se garder cette espérance en la vie. Et puis, c'est vrai que à chaque enterrement, qu'on le veuille ou non, consciemment ou non, eh bien, il y a, comme il dit, cette sorte de jubilation à l'idée que nous, on est toujours vivants. Voilà. Il le dit très bien dans ce poème qui est aussi de l'habit, c'est-à-dire un poème excessivement percutant, avec cette simplicité qui le caractérise et qui est difficile, la simplicité comme ça. Parce que quand il dit « Recouvre-moi avec une de mes toiles que j'ai peinte avec des pinceaux, mais un couteau plat et mes griffes », bon, tout ça, c'est une langue simple, certes, mais c'est une langue bien maîtrisée, bien étudiée. Imaginaire. On me prête une imagination débordante, doublée d'une intuition rarement prise en défaut. Il va falloir réviser pareille appréciation. J'avoue humblement que je n'aurais jamais pu imaginer ce qui arrive aujourd'hui à nous autres pauvres humains, à cette planète orpheline qui a eu la malchance de nous accueillir. Et puis, au-delà d'une certaine limite, imaginer ne sert plus à rien. Voilà, on va peut-être terminer là-dessus. Juste peut-être un point peut-être plus, on a le temps, oui, un point plus, peut-être plus marrant, les vénards. La naissance avec une cuillère d'or dans la bouche, le pédigré qui ouvre toutes les portes, le patrimoine que l'on reçoit pour le transmettre, triplé. La voie royale, le chemin tout tracé, balisé, la chance qui sourit alors qu'on est déjà comblé, l'argent et le pouvoir qui permettent de clamer « tout est permis !» Avoir, faire, défaire, sans se poser de questions, seul compte l'instant présent. Les autres n'ont qu'à se débrouiller avec l'hier, le demain, le déluge, l'apocalypse, le jugement dernier. Ah, ces vénards ! Ils font partie de nos semblables, au même titre que les violeurs d'enfants, et les hyènes. Voilà. Et en lisant ce poème, là aussi, magnifique de simplicité et de dépouillement de Abdellatif Labi, je pensais Einstein, ou Einstein, comme disait l'autre. Hein, voilà. Et puis, bon, quand on voit tout ça, ces gens vraiment qui donnent un peu bon, la nausée, hein, malheureusement c'est vrai qu'il existe des gens comme ça. Et, mais on va finir un dernier pour la route. Hein. Un dernier pour la route. Qu'est-ce qu'on va prendre un dernier pour la route? Je ne pense pas. Point de suspension. Je marche seul en pleine nuit dans le désert. Alentour. Une myriade d'étoiles jonchent les dunes. Est-ce un bruit de vagues qui me parvient par intermittence ou le bruissement d'un simple roulis des sables? Je marche pieds nus, tête nue. En fait, je suis entièrement nu, mais je serre dans la main droite une canne. Je marche sans me poser les questions de la provenance, des haltes et de la destination. Je me fiche de savoir si je suis vivant ou mort, si l'univers a implosé, ou si l'on est à la veille d'un nouveau Big Bang. Je savoure ma solitude, mon dénuement, la perte de toute volonté, l'absence de tout besoin, l'acceptation de ce qui surviendra ou ne surviendra pas. Je ne pense pas, donc je suis. Abdellatif Labi, le dernier pour la route, c'est le titre de son recueil paru, dernier recueil paru, au Castor Astral Collection Poésie. Le livre vous coûtera 16 euros. Et vous pouvez réécouter ces émissions et voir la légende et toutes les informations sur la poésie sur le site Les Poètes, tout attaché sans accent, Les Poètes, un point, site, S-I-T-E, lespoètes.site. A bientôt, à la semaine prochaine.